Bonjour, ici Hugo Prévost, le rédacteur en chef de pieuvre.ca. Si vous aimez nos épisodes de podcast, si vous aimez ce qu'on publie sur notre site, je vous invite à nous encourager en vous abonnant à notre page Patreon. Pour seulement 5 $ par mois, ça vous donne accès à une séance de questions-réponses. Ça vous donne également accès à des épisodes en primeur du balado Rembobinage. Et nous, avec votre contribution, ça nous permet de payer nos journalistes, nos pigistes. Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions. Et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, comment ça va?
Ça va bien? Bonne fête!
Merci. Oui, ben effectivement, on enregistre ça le lendemain de mon anniversaire, donc 37 ans. Voilà, ça va, ça se passe bien. Toi et moi, on a fêté un petit peu hier, d'ailleurs, on est allé prendre un verre là, au bar, comme des adultes responsables. On s'est pas couché trop tard. Et malgré le fait qu'on est aujourd'hui, on a écouté un film assez particulier, on n'a pas décidé d'aller faire sauter un pipeline. Heureusement, d'ailleurs, je pense que ça aurait été un peu...
Ça aurait été plate que tu passes ta 37e année en prison.
Voilà, exactement. Donc voilà, ben comme d'habitude, bienvenue à Rembobinage, Kevin. Donc effectivement, on va parler de How to Blow Up a Pipeline. Voilà. On va essayer d'y arriver. Je pense qu'à mon âge avancé maintenant, la prononciation, c'est en train de prendre le bord. Donc, How to Blow Up a Pipeline, un film d'abord sorti l'année passée, un film de Daniel Goldhaber, voilà, mais qui maintenant vient de sortir sur Hulu, donc le service de streaming Hulu. J'avais vu ça passer, justement, j'avais vu que ça s'en venait sur Hulu. Je savais que ce film-là, ça avait un peu, disons, inquiété certaines personnes en position d'autorité. On va y revenir là, dans quelques minutes. J'ai trouvé quelques articles intéressants à ce sujet-là dont je vais faire mention. Mais d'abord, j'ai envie de t'entendre. Est-ce que tu as aimé How to Blow Up a Pipeline?
Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Je sais pas trop à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de peut-être, tu sais, un film très militant, très un peu qui nous fait la morale sur l'environnement, mm-hmm. tout ça. Mais finalement, c'est vraiment un thriller. C'est un bon divertissement. C'est moi, j'ai été vraiment captivé du début à la fin. Puis oui, il y a des trucs importants qui se disent dans le film, mais c'est pas comme faire ses devoirs, là.
Non, effectivement, ben je t'avoue, là, je viens tout juste de le finir, ça fait, je pense, 10 minutes, et je t'avoue que je savais pas à quoi moi non plus, à quoi je devais m'attendre, parce que, bon, la façon dont on parlait de ce film-là, tout à fait raison, là, c'est un trailer, c'est un divertissement, c'est un film, il y a beaucoup de tension, surtout à la fin, j'étais nerveux pour les personnages qui, bon, évidemment, veulent faire sauter un pipeline. Mais je t'avoue, bon, tantôt, je faisais mention d'article, je disais que ce film-là fait peur à des gens. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à quelque chose de plus revendicateur. Je m'attendais à quelque chose de plus, plus, pas violent dans le sens du sang ou quoi que ce soit, mais quelque chose de plus primal, un peu. Quelque chose de plus, comme tu disais, bon, tu sais, du militantisme, de la revendication. Donc, je sais pas, j'étais un peu surpris, pas nécessairement déçu, mais disons que c'est... Je trouvais que l'engouement autour de ce film-là, ou la crainte autour de ce film-là, était telle que je me disais, bon, ben, ça va être quelque chose de subversif, ça va être quelque chose de on va finir d'écouter ce film-là, puis on va être en train d'aller bloquer des ponts, ou de dire, ça y est, j'arrête de mettre de l'essence dans mon auto, ou quelque chose de même. Pas tout à fait. Donc, on est là pour en discuter, bien sûr. Si tu permets, je vais vous faire un résumé rapide.
Oui, vas-y.
De l'intrigue. En fait, c'est assez simple. C'est simple et compliqué. Largement, c'est un groupe de jeunes hommes et femmes. Bon, sont pas tous extrêmement jeunes, mais il y a personne de très âgé, là, je dirais peut-être début de la quarantaine tout au plus pour certains d'entre eux, mais largement c'est des gens dans la vingtaine qui viennent de différents coins des États-Unis, ont tous vécu des problèmes en lien avec l'environnement, que ce soit, bon, parce qu'il y en a une qui est atteinte d'un cancer incurable parce que notamment elle habite à côté d'une raffinerie en Californie. D'autres personnes comme ça, qui ça fait longtemps qu'ils essaient de réparer les problèmes dans la société avec peu d'impact. Parce qu'on sait évidemment, bon, que les compagnies pétrolières, les compagnies chimiques, les grandes compagnies ont beaucoup de pouvoir parce qu'ils font beaucoup d'argent. Et donc là, ces gens-là essaient de se battre contre ça. Et c'est même pas David contre Goliath, c'est juste Goliath qui écrase tout, et décide de cibler une installation pétrolière en se disant, si on fait sauter une section de pipeline, on va interrompre le flot de pétrole au Texas, donc ils ciblent pipeline au Texas, et on va interrompre le flot de pétrole au Texas, et le Texas est non seulement une grande région productrice de pétrole, mais c'est aussi une région qui donne le taux. En fait, le prix du baril, d'un certain type de baril de pétrole, ce qu'on appelle, bon, on rentre pas dans les détails, mais je pense que ça s'appelle le West Texas, Texas Intermediate. Bref, il y a un acronyme et ça fait partie des différents grands prix du baril de pétrole à travers le monde. Et donc, ces gens-là se disent, si on fait sauter ça là, on va interrompre au moins une partie de la production pétrolière, on va dérégler les cours pétroliers et ça va avoir un impact sur cette machine essentiel dans certains sens, parce qu'on a tous, bon, généralement, on a tous déjà conduit ou été conduit par quelqu'un dans une voiture à essence, mais en même temps qui, effectivement, détruit rapidement la planète. Donc, c'est ça. Fait que ces gens-là décident de faire sauter une partie de pipeline. J'aimerais t'entendre, bon, tu disais, bon, t'avais aimé ça, bon, divertissement. Est-ce que toi, tu disais, est-ce que tu avais des attentes précises? Est-ce que tu disais, bon, effectivement, ça va être très mobilisateur, ça va être un truc très, très bon, une espèce de docu-fiction? Ou tu disais, bon, ça va plutôt justement de la fiction-ish ou un drame-ish?
Ben, c'est ça, j'avais aucune idée si c'était une histoire vraie ou pas. On peut le dire tout de suite, c'est une fiction. Mm-hmm. C'est inspiré de vrais mouvements, de vrais types d'actions, d'éco-terrorisme, mais c'est pas une histoire vraiment avec des vrais personnages qui ont vraiment fait tout ce qu'on voit dans le film. C'est ça, moi, je m'attendais peut-être à plus. Toi, tu disais que c'est justement aussi ça t'avait surpris, disons, qu'il n'y ait pas tant de grands discours puis de grandes revendications. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé finalement, que justement, ça commence, on est presque tout de suite dans l'action, on voit vraiment très, très, très tôt dans le film les personnages en train de faire les préparatifs, puis éventuellement de mettre à exécution leur plan pour faire sauter le pipeline. Puis je trouvais que ça avait un côté un peu Ocean's Eleven, quand tu vois comme plein de personnages qui sont tous en train de faire chacun une petite tâche. Puis, tu sais, moi, j'aime le cinéma qui est du pur cinéma souvent. Mm-hmm. Tu sais, c'est le fun des films avec des dialogues, mais je trouve ça le fun un film que tu vois des gens faire quelque chose. Puis ça, c'est un film que c'est beaucoup ça. C'est très visuel. Tu vois, justement, quand ils font des bombes, quand ils préparent les trucs, tout ça. Puis c'est ça, je trouvais que ça marchait au bout. Un autre truc qui est super intéressant, c'est que au début, c'est ça, vu que c'est tellement dans l'action, c'est tellement visuel qu'on fait juste les voir préparer leur truc, je me disais, ah, mais on n'a aucune idée c'est qui ces personnages-là. Tu sais, mm-hmm. Il y en a, je pense qu'il y a 8 personnages principaux, c'est quand même beaucoup, puis au début, on reconnaît pas vraiment qui est qui puis qu'est-ce qui se passe. Mais le film, de la façon qu'il est construit, c'est que régulièrement, il y a un flashback.
Oui.
Qui présente un ou deux personnages. Donc, pendant, je sais pas, 5-10 minutes, on va dans leur passé. Puis là, on comprend soudainement, ah, OK, c'est ça leur motivation. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à faire de l'éco-terrorisme. Puis ce que je trouvais vraiment bon, c'est que déjà, l'idée est bonne de justement, à travers l'action, nous faire connaître les personnages, mais aussi, comme je disais, la construction, Puis le montage, tu sais, le timing de quand ces flashbacks-là arrivent, c'est vraiment ingénieux parce que souvent, on est en train de voir, mettons, ils sont en train de préparer quelque chose, puis là, ah, quelque chose explose, hein, puis là, on s'en va dans un flashback. Fait que là, ça crée un suspense parce qu'on est comme, oh, OK, on a hâte de voir la suite du présent, mais on est envoyé dans le passé. Puis souvent aussi dans le flashback, il y a une information qui est transmise à un moment précis que là, on fait... Ah, là, soudainement, on comprend quelque chose. Puis quand on retourne dans le présent, on a une information de plus. Fait que c'est vraiment super job de scénarisation et de montage, là.
Oui, oui, absolument. Le rythme est bon parce qu'on aurait pu avoir... ça dure 1h40. On aurait pu avoir 1h40 de gens qui préparent des bombes, qui font attention de pas faire de faux mouvements, puis de préparer, tu sais, bon, ils surveillent les lieux où est-ce qu'ils vont commettre leurs gestes. Et ça aurait pu s'avérer ennuyant, c'est-à-dire, bon, ils font ça dans le désert du Texas, espèce de place au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'enjeu pas vraiment d'enjeu de la question de se rendre là-bas ou d'installer leur truc. Il finit par avoir des enjeux, mais c'est surtout, je veux dire, c'est pas comme si c'était une course à obstacles. Donc, où c'est déjà les obstacles qui ont été franchis en amont du film. Donc, effectivement, ça a déjà été réglé. Puis, donc, c'est là que les flashbacks nous permettent de voir, comme tu disais, de connaître les motivations, davantage les motivations des personnages. Ce que je trouvais intéressant, d'ailleurs, c'est que ces personnages-là ont tous un vécu qui est tellement fort, en un sens, que... tu sais, on aurait pu, il y a déjà eu des films relativement similaires où là, les gens vont commettre un geste qui est grave. Et là, il y a un grand débat philosophique ou éthique, il y a des grands déchirements. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on va faire du mal à des gens et tout ça? Et il y a un petit peu ça dans ce film-là, mais c'est surtout des gens qui, encore une fois, ont tellement souffert ou qui sont déjà convaincus. Donc, quand ils se font aborder, relativement subtilement d'ailleurs, là, c'est pas très caché comme façon d'aborder les gens. Là, c'est pas sur anonymement sur Internet, puis là quelque part sur Reddit, puis là ça oui finalement on va peut-être. Non, c'est comme dans un corridor d'université, ça te tente-tu d'aller faire sauter un pipeline? Ok. Donc, mais ça s'explique comme je te disais par le fait que ces gens-là sont mobilisés déjà dans leur tête. Il y a personne. Tu sais, vraiment, il y a personne qui, la minute d'avant, conduit une décapotable avec un chandail autour du cou, puis qui le, tu sais, qui s'amuse à laisser tourner sa moto pour le fun ou donner des grands coups d'accélérateur pour brûler du gaz. Il y a personne qui fait ça. C'est tous des gens qui sont déjà conscients que la planète est en train de mourir, et qui, le gros facteur, c'est l'industrie pétrolière, c'est notre consommation d'énergie. Et donc, ils disent, OK, il faut agir. Mais bon, c'est ça. Je suis content que on passe outre cette étape-là, puis que ce soit, comme tu disais, directement dans le feu de l'action. Tout à l'heure, je parlais des articles, puis des gens qui avaient peur. Et c'est ça qui m'a surpris, d'ailleurs, parce que a posteriori, je ne sais pas si ces gens-là, ces responsables-là, ces gens de la police, ont vu le film. Je ne penserais pas. Parce que notamment aux États-Unis, le FBI a mis en garde contre des possibles actes terroristes contre les infrastructures énergétiques. Je pense qu'on voyait comme une trentaine de messages, là, de mémos d'alerte en disant « ça se pourrait qu'il se passe quelque chose, faites attention ». En Alberta, j'ai un texte de Radio-Canada sous les yeux, en Alberta, l'Agence de réglementation de l'énergie qui a eu peur du film en disant « ça se pourrait que les gens décident de faire sauter des pipelines en Alberta ». Je pense que les gens n'ont pas compris. Clairement, ils n'ont pas vu le film. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, je comprends un peu dans un sens. Je trouve que le contenu du film a quelque chose de quand même, pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais d'incendiaire, d'explosif, pour pas dire dangereux, ouais. Parce que le film, clairement, ou du moins les personnages prônent l'éco-terrorisme. Ils sont vraiment... ils croient vraiment que, puis non sans raison, qu'à cause des changements climatiques, tout ça, on se dirige vers la catastrophe, puis qu'il faut prendre action. Et dans leur cas, eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est bien beau être militant, faire des, je sais pas, des discours, des manifestations, mais que non, c'est pas assez, il faut faire du sabotage, faut vraiment arrêter l'industrie pétrolière. Puis, j'imagine que quelqu'un qui est influençable pourrait regarder ce film-là puis dire « Ah ben, c'est pas fou, je suis pas mal d'accord avec ça. » Et mais par contre, ce que je trouve un peu drôle que tout le monde s'excite aux États-Unis ou en Alberta, tout ça, « Ah, il va y avoir plein d'actes terroristes », c'est que c'est un film avec à peu près pas d'acteurs connus, un film qui est sorti presque confidentiellement. Mm-hmm. Tu sais, je regardais le box-office. Le film, mondialement, il a fait moins qu'un million au box-office. Wow, c'est, okay. Il y a des films québécois seulement au Québec qui font plus que ça. Donc, tu sais, c'est clairement pas... c'est pas Barbie, c'est pas un film que tout le monde a vu et oui. Que, ah, OK, wow, subitement, tout le monde devient terroriste. Là, tu sais, je pense que... Il n'y a pas assez de monde qui l'a vu pour se rendre à une petite minorité qui va être influençable. Je sais pas, c'est mon opinion, là.
Ben, en fait, je pense que j'ai plus entendu parler de gens, du film, par des gens qui avaient peur du film que par des gens qui ont dit « Ah oui, c'est un bon film ». J'ai lu aucune critique sur ce film-là. J'ai rien vu passer. Je sais que ça existe, mais ce que j'en ai vu, c'est que c'est ça. C'est le buzz médiatique autour de ça, c'était les gens qui avaient peur.
Exact.
Donc, dans un sens, peut-être que le film a réussi son coup en disant, bon, ben, on fait parler de nous par des gens qui ont peur de nous. Mais c'est vraiment particulier parce que des films où des gens mènent des rébellions armées contre le pouvoir, il y en a constamment. Tu sais, des films, bon, toi puis moi, on aime les films des actions des années 80, 90. Tu sais, avec Arnold, il y en a eu un peu un autre, des films comme ça. Puis c'était des films où les méchants pouvaient juger que les rebelles, c'était des terroristes qui font sauter des trucs importants puis qui risquent de tuer des gens puis qu'il faut utiliser la loi puis l'ordre pour les maîtriser.
Mais justement, c'est comme souvent les films où qu'on voit les films d'action avec des terroristes, les terroristes, c'est les méchants.
Oui.
Ce qui est spécial dans How to Blow Up a Pipeline, c'est que les terroristes, c'est les héros. T'sais, ils sont vraiment pas présentés comme « Ah, c'est des mauvaises personnes, faites pas ce qu'ils font. » T'sais, c'est comme... Il y a quand même certaines nuances, puis t'sais, on voit quand même qu'il y a des conséquences à leur action, t'sais, sans divulgâcher la fin du film. On peut deviner qu'il y a des risques à prendre si on fait exploser quelque chose, là.
Oui.
Mais c'est ça, c'est pas les méchants du film, là.
Non, puis en même temps, les méchants du film, j'irais même jusqu'à dire que le méchant du film n'apparaît pas à l'écran, c'est-à-dire le méchant du film, c'est l'industrie pétrolière.
Ben, il apparaît à l'écran parce qu'on on voit, mettons, les cheminées, puis les trucs qui polluent, puis la
Oui, mais ce que je veux dire, ça, c'est qu'il vraiment... y a pas... Oui.
Mais on voit pas les êtres humains, mettons, de qui se mettent riches en faisant ça.
Ben, c'est ça, on a les gens qui travaillent là-dedans, puis tu sais, oui, tu peux toujours dire, regarde, éthiquement parlant, c'est comme le fait que moi, je travaillerai jamais pour l'industrie de la cigarette. Puis j'irai pas travailler pour l'industrie pétrolière. Je fais des choix, puis bon, c'est tout à fait correct. J'imagine que toi, ça serait la même chose. Mais je dis, j'ai connu quelqu'un qui a travaillé pour l'industrie des cigarettiers. Puis bon, pas très longtemps, mais travaillé pour eux autres pareil. Je suis peut-être pas prêt à dire que c'est une job comme une autre, mais si tu regardes, par exemple, en Alberta ou en Saskatchewan, je connais pas assez, j'ai pas vécu là, je connais pas très bien la réalité sur le terrain, mais je me doute bien que dans ces régions-là, tout comme, par exemple, en Mauricie, où je suis allé passer mes vacances dernièrement, ou ailleurs, dans plus au nord, au Québec, si tu veux une bonne job qui paye bien, ben c'est l'industrie pétrolière dans les prairies ou c'est l'industrie forestière ou minière au Québec. Et ces industries-là polluent et ces industries-là détruisent des écosystèmes, mais ces industries-là sont nécessaires. On peut débattre sur la transition vers une économie décarbonée ou en tout cas zéro carbone ou peu importe. Puis je suis tout à fait en faveur de cette transition-là, mais c'est sûr que demain matin, on dit... il n'y a plus aucun pétrole de disponible sur la planète, ben je regarde rapidement tout ce qu'il y a dans mon bureau, puis des trucs qui ont du plastique ou des produits pétroliers, je veux dire, ma caméra, mes écrans, mon boîtier d'ordinateur, mon bracelet de montre, mon téléphone, il y a des produits pétroliers qui rentrent dans la fabrication de tout ça, donc ce que je trouve bien avec le film, c'est que ça nous ramène un peu à ce débat-là sur qu'est-ce qu'on fait avec l'industrie pétrolière. Et ça nous ramène aussi au fait que, ben, ça presse pas mal d'agir et il n'y a pas grand-chose qui se passe.
Oui, en effet, c'est ça. C'est ça un peu le constat. Puis, mettons qu'on est très cynique, on peut se dire que même s'il y a des gens qui font des actions radicales comme faire exploser un pipeline, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Tu sais, mm-hmm. C'est comme... L'idée, c'est un peu de sensibiliser les gens ou du moins leur faire peur ou tout ça, mais je pense que malheureusement, tout le monde est dans son confort, puis les gens en général, ils aiment mieux conduire une auto que prendre les transports en commun ou le vélo ou peu importe. Donc, tu sais, oui, il y a des voitures électriques, il y a des trucs qui se peuvent, mais de là à se rendre, comme tu dis, à un monde où qu'on n'utilise plus le pétrole du tout, je sais pas si on peut faire cette transition-là assez rapidement pour sauver la planète, là, parce que là, il est déjà minuit moins une, là.
Oui, ben en tout cas, ça, c'est un débat, évidemment, qui dépasse le film et le podcast.
Ouais.
Mais, encore une fois, je trouve ça intéressant dans le sens où ce film-là, on l'a dit, est une fiction, est peut-être même plus efficace que certains... Parce que des documentaires sur l'environnement, il y en a un puis un autre. Puis ils sont bons. Puis bon, on peut même penser au film d'Al Gore, il y a déjà un certain temps. Une vérité qui dérange, je pense, en français. Mm-hmm. C'était déjà sur les changements climatiques et ouais. Sur la question du pétrole et de l'énergie. Et ça reste pertinent aujourd'hui, mais c'est ça, comme tu l'as dit, ça va pas assez vite.
Mais ce film, si je peux faire une brève parenthèse.
Ben oui, absolument.
Dans le film de Al Gore, qui date de, je pense, début des années 2000,
mm-hmm.
C'était vraiment, ça faisait peur. Moi, je l'ai vu, le documentaire, c'était vraiment, oh my God, on se dirige vers la fin du monde. Mais à la fin du documentaire, c'était comme, ah, mais si les gouvernements ou l'industrie fait telle action, on peut renverser tout et ouais. Finalement, on va être correct. Mais à peu près 20 ans plus tard, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, c'est ça le problème. Oui. Al Gore, il nous disait en 2000-2001, faites ça, arrêtez le carbone ou je sais pas trop, et ça va être correct, mais finalement, ça rapporte trop d'argent, on dirait, cette industrie-là pour
ben,
que
ça rapporte ça arrête. Des milliards et des milliards c'est et des ça. Milliards. Puis c'est un mode de vie aussi. On veut pas, c'est très dur. Tu disais, bon, les gens préfèrent leur auto qu'une voiture électrique. Ben déjà, les voitures électriques, c'est très polluant aussi. Et ça endommage les routes et tout ça. Bon. Mais c'est aussi, effectivement, un transport collectif. S'il n'y a pas d'investissement, si le réseau n'est pas développé, tu sais, des fois, même à Montréal même, c'est pas évident le transport collectif. Si tu sors de Montréal, c'est encore plus compliqué parce que c'est souvent une logique de tu vas à Montréal travailler le matin et tu reviens le soir. Donc, encore une fois, on est très, très loin du film, mais je trouve ça le fun qu'on ait cette discussion-là. Puis bon, toi et moi, évidemment, on se parle en convaincu, là, mais je trouve ça important quand même que des films comme ça se fassent, même s'ils font pas d'argent. Je pense pas que le but, c'était faire des milliards. Là. Mm-hmm. Mais que ça existe. Et en un sens... Et là, encore une fois, je vais faire mon avertissement habituel quand on parle de sujets un peu délicats comme ça. On n'est pas en train de cautionner, de faire sauter des pipelines. Mais en un sens, si ça fait peur à des gens, et qu'à ce moment-là, les articles sortent en disant des gens ont peur d'un film, est-ce que ça veut... Est-ce que ça peut pas être bénéfique? Ça peut pas faire réfléchir des gens en disant ben pourquoi est-ce que le FBI a peur? Pourquoi est-ce que en Alberta ils ont peur? Est-ce que ça veut pas dire qu'ils se sentent coupables en un sens, qu'ils reconnaissent que les problèmes mis de l'avant dans le film, c'est des problèmes qui existent pour vrai, qui sont responsables? Et qu'à ce moment-là, est-ce que ça peut pas amener les gens à, et je suis pas du tout en train de dire encore une fois faire des pompes, mais à mieux voter, ou à voter plus à gauche, ou à voter plus progressiste, ou à moins consommer de certaines choses. Bon, c'est un débat, évidemment, qui va suivre son cours, mais je trouve ça bien dans un sens que, tu sais, même si ce film-là correspondait pas exactement à nos attentes dans ce sens-là, en tout cas, ou peut-être pas aux miennes, ce film-là est important, je pense. Je pense qu'on peut le dire
dans ce sens-là. Puis c'est ça, puis peut-être justement revenir plus au film. Oui, c'est important, mais moi, je veux insister que c'est super intense, puis captivant. C'est vraiment un bon trailer. Je pense que il y a un côté un peu... je mentionnais Ocean's Eleven. Il y a un côté un peu Fight Club. Tu sais, dans Fight Club, c'était quand même des actions terroristes, tout ça. Oui. Le côté construire des bombes, tout ça. Puis tu sais, évidemment, une scène de quelqu'un qui manipule des matériaux super dangereux, ça crée tout de suite un gros suspense. Puis ça fait des scènes vraiment fortes. Puis aussi, un autre dernière comparaison qui m'est venu vraiment ce matin, genre plusieurs jours après avoir découvert le film, c'est vraiment la structure, dans le fond, de Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Okay. Je sais pas, tu l'as sûrement vu à l'époque.
Ben, je l'ai vu il y a plusieurs années.
Mais c'est ça, dans Reservoir Dogs, c'est vraiment, on suit une trame narrative dans le présent et régulièrement, il y a des flashbacks qui nous présentent le passé des différents personnages. Fait que c'est vraiment un peu ce même procédé narratif-là. Puis évidemment, moi, je pense que les gens le savent, je suis un grand fan de Tarantino, pas mal tous ses films. Fait que moi, je trouve que vraiment, c'est un des grands scénaristes américains. Puis si un film est influencé potentiellement par ça, je pense que ça peut expliquer pourquoi j'ai autant aimé le film, parce qu'il y a vraiment ce côté-là vraiment, vraiment ingénieux dans la façon de raconter une histoire, là.
Oui, ben bon, j'avais pas fait le lien avec Reservoir Dogs, mais comme on disait tout à l'heure, la structure du film, son rythme, c'était très facile de glisser puis de présenter quelque chose qui était un peu plate, qui est trop collé sur la. Ben en fait, c'est un film réaliste, mais quand t'es trop collé sur la réalité, c'est-à-dire encore une fois, on passe 20 minutes à voir quelqu'un monter une créer une bombe là, ben là c'est ça, c'est vraiment, c'est bien monté, c'est stressant, comme je te disais tout à l'heure, moi j'avais des palpitations à un moment donné, et pourtant je me disais c'est un film, que ce soit vrai ou que c'est même pas une histoire vraie, donc pourquoi est-ce que je suis énervé comme ça, mais bref, donc voilà, je pense que de ce côté-là, côté technique, effectivement, très réussi. Est-ce que tu recommanderais How to Blow Up a Pipeline?
Oui, moi, je le recommande fortement. C'est un film, c'est ça, ben, pas mal pour tout ce qu'on a dit. C'est sûr, on s'est égaré beaucoup pour vraiment parler d'environnement et tout ça. Puis il y a des trucs parfois un peu déprimants parce qu'on a l'impression que ça changera pas puis qu'on se dirige vers un mur, là. Ça, c'est une chose. Mais mettons, les parties où qu'on a plus parlé du film en soi... Je pense que c'est un super bon trailer. C'est vraiment... puis t'as mentionné, ça dure genre 1h40. Tu sais, on le dit souvent, il y a des super bons films qui durent 3 heures. Il y a pas de problème avec ça, mais il y a quand même quelque chose... surtout un film qui est sorti en vidéo, que les gens vont regarder à la maison. Tu sais, des fois, t'as pas le goût de t'asseoir devant un film qui va te prendre la moitié de ta soirée, là. Fait que un petit film de 1h30, 1h40, ça passe super bien. Puis en plus, comme on dit, il y a du suspense, tout ça, c'est intense. C'est à peu près impossible de s'ennuyer en regardant ça, là.
Oui, ben je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer du tout. Puis même à la fin, c'était comme OK, est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi les conséquences? Donc voilà, c'est un film intéressant, une suggestion, donc. De nous deux, si vous voulez voir ça, How to Blow Up a Pipeline, le film de Daniel Goldhaber, qui est sur Hulu, on le disait là, en début d'épisode.
Ah ben, peut-être juste une précision, oui. Hulu, c'est seulement, je crois, aux États-Unis, peut-être, je sais qu'il y a des gens qui utilisent des VPN ou tout ça, qui ont peut-être accès, mais ici, j'ai essayé de m'informer s'il allait être, parce que Hulu, ça appartient à Disney, fait que des fois, les contenus sont sur Disney+, mais How to Blow Up a Pipeline, il est pas là pour l'instant, puis là, je leur ai écrit, j'ai pas eu de réponse encore de savoir s'ils vont le mettre sur la plateforme, mais sinon, on peut le louer en vidéo sur demande, sur peu importe les services que vous utilisez, là.
Parfait. Donc, ben effectivement, ça peut être, j'allais dire à l'ancienne, mais c'est pas vraiment à l'ancienne.
À l'ancienne, ça serait le bon vieux DVD, cassette, mais je pense pas qu'il est sorti en DVD encore.
Non, effectivement. Donc voilà, How to Blow Up a Pipeline. Avant qu'on se laisse, Kevin, on en a brièvement parlé, toi et moi. Puis je sais que c'est généralement avec Jean-Philippe que je parle de choses de Star Wars, mais la série Ahsoka vient tout juste de commencer sur Disney+. Donc, une autre série Star Wars, et j'entends des gens qui disent « Ah non, pas encore ». Oui, un peu. Mais bon, deux épisodes de ça sont sortis jusqu'à présent. En quelques secondes, là, vraiment, on ne s'en serait pas là-dedans. Mais est-ce que tu aimes ça jusqu'à maintenant? Est-ce que tu recommandes ça pour l'instant?
Pour l'instant, je suis pas sûr, mais faut dire que comme on parlait au bar hier soir, moi j'ai vu aucun des dessins animés de Star Wars, que ce soit c'était Clone Wars,
Rebels,
oui. Tout ça. T'sais, j'ai rien vu de ça, fait que moi je connais pas ces personnages-là, fait que j'écoutais les épisodes, puis c'est bien fait tout ça, mais j'étais comme ok, c'est qui ces filles-là, j'ai aucune idée. Puis ils font référence à un méchant, ils font référence à quelqu'un qui a disparu, puis je savais jamais de qui ils parlaient. Par contre, ce que j'ai aimé les méchants qui sont, je sais pas si c'est des Sith ou quelque chose, il y a Ray Stevenson qui joue, qu'on voit dès le début du premier épisode, qui est un acteur qui est décédé récemment, là. C'est, okay. C'est assez triste, mais c'est un super bon acteur, puis j'aimais sa présence là-dedans, et j'ai aimé le chat de l'espace.
Oui, le chat de l'espace, un mix, une espèce de mix entre un renard et un chat, c'est très cute. Ben oui, effectivement, tu mentionnais les autres séries, puis c'est un peu le problème là de combler les vides entre les différentes sagas de films. Là, ça se passe quelques années après la chute de l'Empire, donc après le retour du Jedi. C'est ça l'affaire. C'est qu'il faut avoir. T'sais, moi, j'ai tout vu à peu près. Je pense qu'il y a une série que j'ai pas écoutée, mais tout le reste, j'ai écouté Rebels, j'ai écouté Clone Wars. Donc, pour ceux qui ont vu ces deux séries-là de dessins animés, vont être en terrain connu, évidemment. Puis c'est sûr que tu peux comprendre qu'effectivement, j'écoute ça avec ma copine aussi, puis elle-même, je pense qu'elle mentionnait hier soir aussi quand on est allé célébrer, elle m'écoutait avoir du plaisir à reconnaître des personnages ou à reconnaître des références, puis elle ne comprenait pas de quoi je parlais. Mais bref, nonobstant ça, je pense qu'on peut quand même suivre l'action, mais c'est sûr qu'on va moins comprendre un peu si on n'a pas vu les autres choses. Nonobstant ça, je trouve que c'est bien tourné, c'est bien fait. Je trouve ça meilleur déjà que Kenobi. Kenobi, c'était pas très bon. Mais donc, c'est ça. J'ai trouvé que c'était bien fait, c'était bien structuré. J'ai hâte de voir où ça s'en va, mais il a l'air d'avoir un ton intéressant là, là-dedans. Et c'est peut-être plus... je veux pas dire que Mandalorian, c'est pas Star Wars, parce que c'est très Star Wars, mais si vous ennuyez un petit peu de sabre laser, si vous ennuyez un peu de la force... Tout est là, il y a des sables laser. Premier épisode, il y a des sables laser. Donc, ça vous remet dans le bain, sans tomber dans les excès des épisodes 7, 8, 9, Dieu merci. Mais effectivement, c'est plus Star Wars en un sens, que plus grandiose que Mandalorian, qui est plus plus précis dans un coin spécifique de la galaxie. Là, c'est vraiment plus genre grand déploiement. Bref, donc j'ai hâte de voir ça. Et probablement, je le mentionnais tantôt, que Jean-Philippe Guilbeault va revenir au podcast pour parler de cette nouvelle série, donc Ahsoka, qui commence à diffuser sur Disney+. Kevin, merci évidemment d'avoir été là aujourd'hui pour non pas faire sauter un pipeline, mais parler du film comme tel, voilà.
Oui, merci, puis... Heureusement, t'étais pas trop lendemain de veille, moi non plus.
Oh, pas du tout.
On a été raisonnable, fait qu'on a pu faire l'épisode.
Voilà, on était très sages hier, notre âge, on n'a pas le choix. Voilà, donc, merci évidemment à ceux qui nous écoutent d'être fidèles au rendez-vous. Je vous invite, bien entendu, comme à chaque épisode, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca. Vous recevez donc chaque samedi l'ensemble de nos contenus. Ça comprend bien sûr les articles, les critiques. Et ça comprend évidemment les épisodes de podcast. Donc, vous allez sur le site, il y a un formulaire à remplir, ça prend quelques secondes, c'est très, très simple. Et c'est gratuit, bien sûr. Donc, voilà, sur ça, je vous dis merci et à bientôt.